Le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Bonsoir à tous, bienvenue sur Paris Central, votre débrief. Comme vous nous suivez d'habitude, là on est en plateau, on a encore du renfort. Et pour vous présenter l'émission, je suis Gâteau, et bien évidemment, comme tout à l'heure. Et j'ai un quatuor de renfort par rapport à tout à l'heure. On a encore notre ami, notre quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Sourakata. On a encore Rekoba, notre ami qui n'est pas à l'Inter Milan, mais on l'a ici, on est très content d'avoir Rekoba. On a le boss, Jean-Marc. Comment ça va, mon ami?
Ça va très bien, ça va bien.
Ça va bien.
C'est pas comme...
On ne boude pas?
Ouais, non, mais je vous ai entendu pendant toute la première mi-temps. Maintenant, ça va mieux, quoi. On vous entend moins.
Il ment, personnellement.
Très bien, ça va mieux.
N'écoutez pas, il ment.
Ne jamais trahir le Congo. Oui, c'est son blaze. Non, ce n'est pas Gâteau. Il fait rire pas mal de personnes. Avec lui, on sourit. C'est Paris.
C'est moi, bonjour à tous, on est ensemble.
Les amis, le PSG donc, s'est imposé 2-0 face à la Real Sociedad. On a eu un début de match compliqué et je veux lancer mon cher Jean-Marc parce qu'il a été pas mal pris par les émotions en coulisses.
Ouais, non, mais vous aussi quand même. Attendez, c'est vous qui étiez dans des émotions négatives. Moi, j'étais pas dans des émotions.
Surtout la première mi-temps.
Il ment.
En première mi-temps, il faut reconnaître que le PSG a fait une mi-temps très très médiocre. Mais après, il faut être patient, il faut avoir un peu d'expérience, savoir qu'il y a deux mi-temps déjà. Et donc, ils ont redressé le tir, ils ont fait service minimum. 2-0, c'est service minimum. Ils auraient mieux fait de marquer le troisième. Ils avaient l'occasion de le faire plusieurs fois, ils ne l'ont pas fait. C'est un peu dommage, j'espère qu'on ne va pas le regretter. Mais en même temps, la Real Sociedad, ce n'est pas terrible du tout. Donc, peut-être qu'ils vont se transformer chez eux dans leur stade, mais bon. Donc, première mi-temps, pas bonne. Mm-hmm. Deuxième mi-temps, bien meilleur, mais on peut faire mieux.
C'est ça.
Barry, au lieu de remettre sa veste.
Moi, j'ai un peu froid.
Non, ça arrive, on est habitués. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps?
Première mi-temps, moi, je suis d'accord avec Jean-Marc. Je pense qu'on l'a vu que Jean-Marc.
Toujours d'accord.
Vu que Jean-Marc était vraiment très à cran sur la première mi-temps. Non, blague à part, la première mi-temps était cataclysmique, il faut parler français. Hein. Aucune ressortie de balle, on se fait. On a des séquences de possession pendant une dizaine de minutes, mais globalement, on ressort très mal le ballon. Moi, j'ai beaucoup gueulé sur la première mi-temps, sur les déplacements de Fabien Ruiz, qui est censé être numéro 6 et qui ne fait aucun déplacement pour pouvoir aider ses défenseurs à la relance. Et donc, qui met en galère notamment Hakimi et notamment Marquinhos. Donc voilà, un peu de frustration par rapport à cette première mi-temps. Maintenant, seconde mi-temps de haute volée, j'ai envie de dire, bon, entre guillemets, hein, par rapport au PSG.
On va y revenir.
La première mi-temps était globalement mauvaise dans l'ensemble. Voilà.
Avant de donner la parole à mes deux amis qui ont été avec moi pour l'avant-match, les amis, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de commenter parce qu'on voit vos commentaires. Voilà, il y a Ryan qui nous dit il a mariné, il y a que Kubo qui était bon en face. Donc n'hésitez pas, on lit vos commentaires, Soura est là pour moi, pour m'accompagner dans ça. Donc voilà, Soura, la première mi-temps, comment t'as vécu ça? Quel est ton sentiment par rapport à ça?
Je l'ai mal vécu, parce qu'ils ont pas été bons, ils ont pas répondu présent, notamment dans l'intensité. En plus, on en parlait tout à l'heure avec Rekoba, on avait mis les points qu'il fallait améliorer pour cette équipe. Finalement, ils ont pas répondu présent en première mi-temps. Il y a eu beaucoup de lacunes, notamment au milieu de terrain. Les qualités techniques, les défauts qu'on remonté depuis le début de la saison sont ressortis au grand jour dans un match couperet de la Ligue des Champions. Pour moi, défensivement, on a su quand même tenir la baraque en première mi-temps, notamment avec un très très bon match de Danilo Pereira et un Marquinhos qui a su bien couvrir les errements dans la profondeur et notamment qui a su quand même un petit peu épauler Beraldo. Maintenant, même offensivement, on a fait de très mauvais choix. Quand même, on arrivait à se trouver de bons circuits de passe pour aller en transition. On n'arrivait pas à régler la mire devant le but. On avait aussi techniquement des grosses lacunes, que ce soit Ousmane Dembélé, que ce soit Bradley Barcola aussi, qui était un peu en difficulté, voire même parfois oublié sur son côté gauche. Il y avait aussi la manière dont on arrivait à amener les occasions, des mauvais choix, un manque de lucidité, notamment de la part de Kylian Mbappé, qui soit voulait s'emmener le ballon à lui tout seul ou il allait s'enfermer dans la charnière centrale. C'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, le choix numéro 1 qui peut un peu remonter sur Luis Enrique, c'est Fabián Ruiz.
Et Koba, comment t'as vu ça, toi?
La première mi-temps, ouais, le meilleur football d'Espagne, il a quand même pas fière allure, hein, parce que nous, on a été en dessous de tout aussi, mais la Real Sociedad, ça a été très faible aussi, il faut le dire quand même. Mm-hmm. Et globalement, même sur ce match, là où nous, on a réussi à régler la mire sur la deuxième mi-temps avec des changements tactiques qui ont été importants. On va y revenir. Mais sur la première mi-temps, oui, nous, on est en dessous. Mais alors, la Sociedad, ça a été très fébrile, je trouve, tout le match. Alors, on va me dire, il y a eu des blessés et tout. Mais clairement, il y a Oyarzabal qui a manqué. Mais la plupart de tes blessés, c'est des remplaçants. On peut voir le niveau d'Amari Traoré. Robin Lenormand était catastrophique. Bref, il n'y a que vraiment Kubo qui a été intéressant devant. Mais comme d'hab, on l'avait dit de toute manière en avant-match, les clés, elles vont se passer sur le côté et offensivement, la Sociedad sera dangereuse qu'avec Kubo et c'est ce qui s'est passé. Donc oui, cette première mi-temps, elle a été très très faible du côté du Paris Saint-Germain et globalement même des deux équipes. Et on a réussi à régler la mire en deuxième, tant mieux parce qu'au final, mine de rien, tu gagnes quand même 2-0, c'est important. On peut voir que ce soir, le Bayern a perdu. Mine de rien. Et hier, le Real a failli perdre contre Leipzig aussi, ou se faire accrocher du moins. Le City, oui, ils ont triché, ouais.
Mais City, ce sont deux matchs qui étaient à l'extérieur. Et oui, City aussi. Donc les gros, on joue à l'extérieur. Nous.
Oui, mais il n'y a pas de. Au final, ouais, on était deuxième, peu importe le match, peu importe l'adversaire, pour moi, il n'y a pas d'équipe facile en arrivant en huitième de finale. Donc je trouve que. Bon, la première mi-temps, évidemment, on va en discuter longuement, mais au final, tu sors quand même avec une victoire 2-0. Je trouve que c'est quand même encourageant, et surtout quand tu vois que les Cadors derrière, ils ont eu aussi du mal. Le Bayern a perdu, la Lazio, ils sont 7e aussi de Serie A, donc à un moment donné, le Real a eu du mal, et City a pris un but aussi face à Copenhague, donc c'est pas évident, mais je suis content de cette deuxième mi-temps, moi, surtout.
Encore un tirage facile pour City, c'est bizarre, ça.
Ouais.
C'est bizarre.
Ouais, les amis.
Après, en termes de probabilité, il y a de chances d'avoir des tirages faciles.
Ce sont des Anglais.
En phase de poule.
Voilà. Les amis, on était 3, maintenant on est 5. On vous a ramené 2 mecs qui ont quitté leur dame pour vous. Donc, on va aller chercher quand même les 300 likes sur cette. Sur ce débrief.
Vous avez intérêt à la drill.
Voilà, ils sont en difficulté pour vous. On va aller chercher les 300 likes. On partage bien évidemment. Voilà, sur tous vos réseaux sociaux. Et puis, vous n'oubliez pas, les débriefs sont disponibles sur vos applications Spotify, Apple Music et compagnie. Jean-Marc, est-ce que Luis Enrique il a été bloqué tactiquement malgré l'éclaircie de la deuxième mi-temps?
Moi, j'ai toujours... Enfin, ceux qui sont avec moi là, sur les 3-4 lives que j'ai faits, je ne suis pas un grand fan de Luis Enrique. Là, je ne comprends pas. Je croyais qu'Hernandez était blessé. Pourquoi il nous met Beraldo arrière-gauche? Le mec, c'est un arrière-central. Ce n'est pas une flèche défensivement. Il le met devant le meilleur joueur de l'équipe adverse. Je ne comprends pas. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi sur Ruiz.
Encore une fois.
Oui. Ruiz, déjà, il est discutable, mais alors en 6, il est encore plus discutable. Et j'ai pas bien compris, je sais pas ce que vous avez vu, mais en deuxième mi-temps, je sais pas s'ils ont interverti Ruiz et Vitinha ou s'ils ont joué tous les deux même ligne.
Sur certains moments, ils ont interverti les deux. Et il y avait un moment,
à
la ressortie de balle déjà, et des fois, ils étaient sur la même ligne, notamment, on pouvait voir sur certaines occasions. Où Fabian Ruiz était sur la ligne de la défense, mais côté gauche avec Beraldo.
Non, mais c'est ce qui a changé le match. Hein. Clairement, pour moi, c'est ce qui a
changé
le match.
Oui, je suis d'accord. Vitinha aussi,
qui a fait une super deuxième mi-temps et qui change tout. On arrive à ressortir le ballon.
Donc, on aurait pu le faire depuis le début. Je ne comprends pas ce qu'il a empêché de faire ça depuis le début.
Choix tactique.
Ça, c'est première chose. Donc, erreur tactique. Et deuxième chose, je ne comprends pas son coaching. Même si on finit par gagner 2-0, en deuxième mi-temps, je ne comprends pas son coaching. Le meilleur défenseur, même si Marquinhos fait un bon match, Danilo fait un gros, gros match. Il le sort. On dit toujours qu'il ne faut jamais toucher à la charnière. Pourquoi il change? Je ne comprends pas. Pour mettre Beraldo, qui avait quand même été...
En difficulté.
Il le change de poste, il le met dans l'axe. Ce n'est pas lui rendre service.
Ouais.
Et il met Hernandez, qu'il n'aurait jamais dû ne pas mettre, parce qu'à partir du moment où Hernandez est rentré, on n'a plus vu le japonais. C'était fini. Donc, j'ai un peu de mal avec ce coaching, même si finalement, il se rattrape. Qui change les deux attaquants des ailes, ok, pourquoi pas. Asensio a plutôt été intéressant. Kolo Muani, c'est toujours un peu compliqué. Mais par contre, la compo de départ sans Hernandez, je ne comprends pas. Et Ruiz à cette place, je ne comprends pas.
Du coup, l'argument du carton jaune, il est caduque pour Lucas Hernandez.
On va y revenir.
C'est ça l'argument. C'est le carton
jaune. Il y avait
jaune.
Un des arguments qui disait qu'il ne l'aurait pas titularisé parce qu'il avait la suspension.
On va revenir là-dessus.
Il est rentré,
oui.
Et donc. Barry, selon toi, est-ce que Luis Enrique était bloqué tactiquement? C'est le fait qu'il ait changé son milieu de terrain, en tout cas, pas forcément en termes d'homme, mais en termes de placement. Est-ce que c'est ça qui a permis la deuxième mi-temps, l'éclaircie? Parce qu'on a vu beaucoup plus de pressing en deuxième mi-temps.
Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait qu'il ait fait des erreurs de tactique. Pour moi, la seule erreur tactique, ça a été de vouloir que Fabian Ruiz viennent ressortir à la relance. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu trois phases. Il y a d'abord la phase où Fabien Ruiz essaie de le faire, il n'a pas été bon. Warren a commencé à le faire, sauf que Fabien Ruiz et Warren, ils étaient super mal placés. Mm-hmm. Donc, en mi-temps, on ne savait pas qui était censé ressortir le ballon. Donc, du coup, les deux avaient un sorte de problème, à savoir, est-ce que c'est moi qui vais ressortir ou est-ce que c'est Fabien Ruiz. Et donc, moi, justement, j'ai beaucoup gueulé pendant la mi-temps parce que je ne comprenais
Effectivement,
pas.
Effectivement, oui.
Je ne comprenais pas le placement. En fait, je ne comprends pas. En fait. Normalement, Fabien Ruiz est censé être numéro 6 sur la composition. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi la ressortie de balle, et quand je parle de la ressortie de balle, c'est-à-dire lorsque le gardien passe le ballon au défenseur, je ne comprends pas pourquoi Fabien Ruiz se retrouve en position
de défenseur. Non, mais t'as raison, il y avait 6. Un espace entre voilà. les défenseurs centraux et les premiers milieux qui et était
rédhibitoire. Il y a des actions de jeu où Fabien Ruiz voit que Warren commence à se déporter en position numéro 6, mais Warren reste en position numéro 8, et lui lance un appel dans la profondeur. Il n'y a personne pour avoir le ballon. Donc non, il faut qu'il y ait un joueur qui vienne apporter, de par ses déplacements, un surnombre au milieu, en défense. Et donc justement, ça évite ce qu'on a vu, notamment depuis le début de la saison, et ça évite aussi ce qu'on voit aussi pendant ce match-là, que le ballon passe à droite et que Hakimi soit complètement bloqué. Et donc Hakimi fasse une relance hasardeuse, soit dans l'axe avec Marquinhos, ou soit un centre complètement hasardeux. En ayant ce déplacement du 6 qui se rapproche du défenseur, bah ça ouvre beaucoup de perspectives, en sachant qu'en plus, un numéro 6, normalement, dans ce moment-là, il est censé être de 3 quarts au jeu, et donc être face au jeu, et donc la possibilité de relancer soit nos attaquants, nos ailiers comme Dembélé, etc. Et c'est là où je ne comprenais pas. En seconde mi-temps, je l'avais dit en plus à la mi-temps, j'ai dit que moi, je préférais que lorsque c'est Vitinha qui le fait ça, parce que Fabien Ruiz a beaucoup de problèmes à le faire. On l'a vu au dernier match. Fabien Ruiz, il ne sait pas le faire. Il ne sait pas compenser. Pourtant, il veut garder dans le dernier match.
Même dans l'orientation du corps, ce n'est pas bon.
Voilà. L'orientation du corps, il se retrouve toujours face à son gardien, alors qu'il est censé être de trois quarts pour pouvoir avoir la possibilité de voir ses attaquants et de voir la suite du jeu et pour pouvoir décider ce qui se passe. Fabien Ruiz n'a pas forcément la vision de jeu qu'il devrait avoir pour être numéro 6.
Après, il fait une bonne. On dirait qu'il lui faut 80 minutes pour commencer à bien jouer.
Et voilà, tu vois. Mais c'est là où justement, je suis d'accord avec toi, c'est que Fabien Ruiz est très bon 8.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en 8, il est capable d'être très bon, il n'a pas besoin
d'être... Il faut qu'il ait le jeu
de lui. Voilà. En 8, il est très bon. En 6, c'est compliqué. On l'a vu, à partir de la seconde mi-temps, on change tout et ça change tout.
Bah, tu vois, tu dis qu'il faut qu'il ait le jeu devant lui. En numéro 6, c'est un poste où tu as vraiment une vision panoramique du jeu.
C'est ça. Souvent, tu touches le ballon de dos. C'est là qu'il est mauvais.
Pas forcément.
Il met deux ans.
Et en 8,
dans le football moderne, et dans le football espagnol,
recevoir le ballon
6, c'est la tour de contrôle.
Oui.
Eric Oba, comment tu as perçu ça? Parce que en deuxième mi-temps, on a vu beaucoup plus de pressing. Est-ce que c'est vraiment dû à la présence de Vitinha à la première relance au lieu de Fabien Ruiz?
Qu'on est arrivé à se sortir du pressing ou que nous, on a fait plus de pressing?
On a fait plus de pressing aussi.
Bah non, mais je pense que, ouais, pour moi,
les deux,
le changement de Vitinha et Ruiz change tout. On l'a vu directement avec un Vitinha qui est beaucoup plus mobile que Fabien Ruiz, qui se propose, peu importe la situation, il est toujours là pour se rendre disponible. Et surtout... Bah, ça va très vite sur les premiers appuis, il arrive à se retourner très vite et il se rend disponible, il la donne, il redemande. Et donc forcément, quand tu as un 6 comme ça qui vient te soulager, quand tu es défenseur, tu peux ressortir plus facilement le ballon, plus vite aussi. Mais globalement, après, pour notre pressing collectif, oui, en deuxième mi-temps, on est rentré avec de bien meilleures intentions et toute l'équipe a beaucoup plus pressé, à l'image aussi de Barcola qui finit joueur qui a le plus fait de tacles dans le match devant tous les défensifs. Donc ça montre quand même qu'on a bien défendu en groupe. Et au final, on n'a pas tant concédé d'occasion que ça. Mais pour moi, oui, le vrai changement sur cette deuxième mi-temps, c'est Vitinha qui change la rencontre.
Quand il y a André Silva en face.
Ouais, en plus, c'est ça, oui.
Oui, c'est quand même...
Il est claqué, lui. Hein. Oh là là.
Oui, c'est un peu difficile. Il y a Apollon qui nous dit que Fabien Ruiz a une orientation de corps catastrophique.
Oui,
il vous rejoint.
C'est pas un 6, quoi. C'est pas un 6.
Il y a...
Même au-delà de son numéro 8, il a pas une orientation. En fait, il a une orientation qui est très défensive.
Il est lent.
Alors que justement, il est pas bon défensivement.
Il est lent.
Il est pas bon dans les duels. Donc justement, avec toutes les qualités offensives qu'il a, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il ait une orientation du corps aussi défensive. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et pourtant, en seconde mi-temps, il est pas dégueulasse.
Non.
Même en première mi-temps, lorsqu'on est en phase offensive, il est pas dégueu. Mais c'est en phase défensive. Notamment la ressortie de balle où Fabien Ruiz pose énormément de problèmes. C'est pour ça que tout à l'heure sur les réseaux, les gens ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais pourquoi tu tires sur Ruiz? Il fait un bon match. Non. Il fait un bon match lorsqu'on est dans des sessions de possession offensive. Mais lorsqu'on est dans des sessions défensives, et justement, c'est là où justement le numéro 6 est essentiel, il n'est pas bon. La récupération n'est pas bon et à la ressortie de balle, il n'est pas bon. Ça pose beaucoup de problèmes.
Il y a Alain Philippe qui dit que Ruiz a fait un bon match.
Mais il a fait un bon match dans l'ensemble. En 8.
Oui,
il a fait un bon dernier quart.
En 8.
Il a fait 20 minutes, quoi.
Mmh. 8.
Ouais. Soura, on a quand même pas mal d'avis négatifs sur Fabien Ruiz à juste titre. Qu'en est-il de Danilo, selon toi? Parce que Danilo, quand même, malgré que les Espagnols ont été quand même mauvais dans cette première période en termes de réalisme...
Tiens la baraque. Il y avait des doutes déjà au début de saison par rapport à Danilo Pereira. Tu pensais que ça allait être Skriniar qui allait peut-être s'imposer ou un Lucas Hernandez, mais vu qu'il était à gauche en attendant le retour de Nuno Mendes. Et finalement, on a vu que Skriniar, c'était compliqué pour lui. Là, Danilo Pereira, défensivement, il est solide dans les duels. Il nous souffre de beaucoup d'occasions. S'il n'y a pas un gros Danilo Pereira en première mi-temps, c'est peut-être la Real qui mène. Et la physionomie du match est totalement différente. Et j'irai même plus loin en disant que pour moi, c'est l'homme du match de la rencontre. Il nous a mis dans de très, très bonnes dispositions, notamment en première mi-temps. Il nous met dans de bonnes conditions pour pouvoir espérer ouvrir le score dans cette rencontre-là. Donc ouais, pour moi, c'est l'homme du match de cette rencontre-là. Son changement est un petit peu, pour moi, suspect. Enfin, je ne comprends pas trop pourquoi il a été changé.
Il a ressenti une douleur.
C'est ce qu'on disait pour Lucas Hernandez. Finalement, il est rentré. Finalement, ouais, c'est un peu dommage qu'il soit sorti après sa très bonne prestation ce soir. Et pour moi, je pense que là, il gagne énormément de points. Parce que vu que Nuno Mendes n'est pas encore revenu et qu'on n'a pas acheté de latéral gauche, bah pour le moment, je pense qu'on va avoir un Danilo Marquinhos en charnière centrale pour un moment, à moins qu'il fasse tourner pour le faire reposer.
Mais Rico, en parlant de Marquinhos avec Danilo, ils se complètent bien, mine de rien. Parce qu'il y a eu beaucoup de pression en première mi-temps. Et puis, on a vu que cette pression, avec le retour de Vitinha en 6, elle a complètement disparu. Mais ils ont quand même été assez solides parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'occasions. Et Donnarumma, mine de rien, il n'a pas eu tant de travail à faire. Mis à part la barre transversale de Mikel Merino.
C'est ce qu'on disait souvent l'année dernière avec Barry, là-dessus, on était souvent d'accord. On disait que la défense, c'était difficile de les incriminer parce que le milieu de terrain ne les aidait pas. Et en première mi-temps, on a concédé pas mal de dangers à cause justement de ce milieu de terrain-là. Et c'est vrai que, comme l'a dit Soura, Danilo nous a clairement sauvé les fesses. Il y a deux tacles qu'il met à un moment donné, il sauve le PSG, ça peut être un autre match. Mais oui, cette charnière, elle est complémentaire parce qu'il y a Marquinhos qui a sa vitesse, qui a sa lecture du jeu, qui a une très bonne relance aussi, qui peut couvrir aussi dans le dos s'il y a besoin avec sa vitesse. Il y a Danilo qui est très très dur sur l'homme et en plus dans un match comme ça où le candidat en face c'est André Silva, bah c'est tout bénef, c'est du pain béni pour Danilo qui physiquement s'impose, qui n'a pas ce déficit de vitesse face à un attaquant qui n'est pas très rapide, pas très agile, pas très mobile. Donc c'était un match parfait pour Danilo, un adversaire parfait. Et au final, il a fait la prestation qu'il fallait. C'est très bien pour nous. Et je pense que oui, cette charnière va s'imposer dans le futur. Même à voir aussi, parce qu'il y a cette fragilité de Lucas Hernandez qui n'a pas démarré le match. Donc même s'il y a le retour de Nuno, est-ce que ce sera Hernandez ou Danilo? En tout cas, Danilo mérite de jouer aujourd'hui. Et quand on le disait par rapport à Skriniar, et qu'on les mettait face à face les deux, pour moi Danilo et Skriniar, il n'y a pas photo. Skriniar n'a jamais sorti, pourtant il a eu la confiance du coach, il n'a jamais sorti un match comme ça au PSG.
C'est pour ça que quand tu dis que si Skriniar ne s'était pas blessé, je pense qu'il aurait continué à aligner Skriniar.
On pense.
Ah oui, bien sûr.
Mais tu sais, je vais aller encore plus loin. Lorsque Skriniar va revenir, je ne suis pas sûr que Danilo rentre dans ce plan.
Pour la saison.
Mais lorsqu'il va revenir la saison prochaine, je ne suis pas sûr que Danilo passe devant lui.
Oui, non, tu as raison.
Mais bon, après.
On verra.
Ouais.
Et Barry, comment expliquer une deuxième mi-temps avec autant de pressing? Est-ce que c'est juste défensivement, on arrive à s'aligner, donc du coup ça permet aux latéraux de sortir ainsi qu'aux ailiers? Ou au bout d'un moment, peut-être qu'il y a une soufflante aussi à la mi-temps du coach et que hey, les gars, bougez-vous parce que ce que vous faites, c'est pas suffisant pour un... On parle d'un huitième de finale de Champions League à domicile.
Tu sais, moi je veux dire un truc, c'est vraiment débile, hein. C'est vraiment simple. Je pense qu'à un moment, le coach dans les vestiaires, il leur a tiré dessus, c'est simplement.
Ah ouais.
Des fois, on cherche un peu le truc de se dire « Ouais, mais non, mais il a replacé Vitinha en 6, etc. » Je ne suis pas sûr que Vitinha en 6 permette un meilleur pressing que Ruiz en 6. Hein. Mm-hmm. Au final, on en arrive avec le même plan de jeu. Je pense qu'à un moment, c'est tout simple. Le coach leur dit « Hey, les gars, techniquement, vous puez la merde. Désolé du terme, mais vous êtes mauvais. Mm-hmm. Vous êtes mauvais sur cette période de temps. Au pressing, vous leur laissez jouer. » Alors, c'est une équipe en plus qui, malgré tout, est un cran au-dessus du Paris Saint-Germain en termes de qualité technique. Mais techniquement, c'est pas non plus Porto Combo. Tu vois, c'est une équipe... Désolé pour Porto Combo. Mais tu vois, c'est pas non plus une équipe qui...
Je suis pas issu du 77, voilà. Moi ça me dit.
C'est pas une équipe voilà. qui ne sait pas jouer au football. C'est quand même une équipe qui est en plus en championnat espagnol, qui est réputée justement pour cette qualité technique qu'ils ont. Au milieu de terrain, ils ont quand même un milieu de terrain qui est très efficient. Donc ça prouve que quand même, ils ont une qualité technique qui est hautement supérieure à la moyenne. Donc je pense qu'au bout d'un moment, tout simplement, le coach leur dit, hey, les gars, on joue contre la Real Sociedad, on est le Paris Saint-Germain. Vous jouez comme des merdes, alors que vous êtes censé les presser, attaquer, et pouvoir attaquer les côtés. Et on le voit, en première mi-temps, le seul bon joueur qui ressort du lot, pour moi, c'est Danilo, et offensivement, c'est Dembélé. Et en seconde période, tu as un Barcola qui est beaucoup mieux et qui met un but d'ailleurs qui est récompensé. Tu as un Kylian Mbappé que j'ai trouvé très faible et très soliste sur toute la rencontre, mais très faible en première mi-temps.
On va revenir sur Kylian Mbappé plus tard.
Beaucoup plus intéressant dans ses déplacements, dans ses courses en seconde période, au-delà de son but. Donc ça prouve bien qu'à un moment, si ces gars-là sont meilleurs et que tu as toute la ligne offensive qui est meilleure que par rapport au premier match, c'est qu'elle est plus alimentée. Et si l'équipe est plus alimentée, c'est que le pressing est mieux agencé, l'équipe ressort mieux les ballons et joue plus correctement et fait confiance à sa qualité technique.
Les amis, on est quasiment 500, Jean-Marc. Donc, on va chercher les 350 likes.
130 likes pour la fin.
Voilà, donc il faut y aller, il faut liker, partager tout ça en story, dans vos différents groupes.
Cliquez, bande de
cliquez. Dans vos réseaux sociaux. Jean-Marc, tu voulais dire un truc sur ça?
Oui, non, je pense que juste pour ce que tu disais, je suis assez d'accord, Barry. Sauf que je pense qu'en première mi-temps, la consigne, c'était pas de presser. Je pense qu'ils n'avaient pas comme consigne de presser. Je pense qu'ils avaient comme consigne d'être plutôt dans la conservation et ils ont complètement raté leur coup, quoi. C'est eux qui se sont fait presser. Et à la perte du ballon, alors on n'a pas beaucoup joué dans le camp de la Sociedad. Mais quand on jouait, tu n'avais pas l'impression. Alors qu'en deuxième mi-temps, c'est une métamorphose, quoi. Ils se sont mis vraiment à presser comme des morts de faim. On voyait des sprints au milieu de terrain, souvent dans le vide, mais ce n'est pas grave parce que ça met la pression sur l'adversaire. Et je pense qu'il a... Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il leur a hurlé dessus et il leur a dit « Maintenant, vous pressez ». Mais je pense qu'en première mi-temps, ils ne voulaient pas presser.
Je ne suis pas forcément d'accord avec toi parce qu'en fait, il y a trois phases pour amorcer un pressing. Il y a la première phase à la perte du ballon où justement, on va être sur un pressing direct. Où on va foncer sur le porteur du ballon et donc essayer de limiter ses zones de passe. On a la deuxième phase où justement, lorsque en général c'est la première ligne qui elle va presser, etc. Tu as les autres phases, la deuxième phase où justement les joueurs vont commencer à se repasser. Tu as la troisième phase où tu vas avoir un bloc compact et donc tu vas avoir un bloc qui va se dépasser latéralement en fonction de où se trouve le ballon avec des joueurs qui vont presser. Et donc c'est vrai que ces trois phases-là, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on les a moins vues en première période. Mais c'est aussi parce qu'en fait, tu tombes face à une Real Sociedad qui ne joue pas rapidement, qui ne joue pas à la contre-attaque, qui a envie de déployer son jeu de possession.
Oui, c'est ça, ouais.
Et donc, ça permet à l'équipe, justement, notre Paris Saint-Germain, de se déployer plus lentement. C'est-à-dire qu'on va se déployer, on va pas être pressé. Alors qu'en seconde période, tu te retrouves avec une Real Sociedad qui comprend que le jeu de possession, ça va être compliqué contre le Paris Saint-Germain. Donc, lorsque l'on récupère le ballon, essayons d'aller en transition. Et c'est justement cet aspect-là qui libère des espaces et qui permet aussi, notamment aux attaquants, d'être meilleurs. Tu vois. Bon, après, c'est mon avis, peut-être que je me trompe.
Il y a tout qui se joue dans les premières minutes du match. La dame du match, elle est mauvaise. Elle est un peu à l'image de ce qu'on avait vu face au Havre en Ligue 1. Sauf que l'Havre, eux, ils avaient ouvert le score et la Sociedad, ils n'ont pas été décisifs devant le but. Dans les premières minutes, tu te fais bouffer. Tu te fais bouffer, tu te fais prendre haut, tu te fais couper à la gorge. Il y a un pressing de 2-3 joueurs pour aller récupérer la balle. Tu as même du contre-pressing de la part des joueurs basques. Donc, pour le coup, c'était pas bon, en fait, l'entame de match. Et c'est pas la première fois que les entames de match du Paris Saint-Germain sont mauvaises. Et il faut à chaque fois que, comme un diesel, Vitinha essaye de revenir d'aplomb, que les joueurs essayent de se remobiliser et essayent de remettre un petit peu du plomb dans un petit peu un coup de pied à l'étrier, pour le coup. Mais finalement, quand tu vois un petit peu la seconde mi-temps et tu vois comment ils ont réussi à revenir dans le match et à démarrer cette seconde mi-temps, c'est le jour et la nuit.
On a Yo OTB qui nous dit « Barcola a pris la place de Mbappé sur le côté gauche. » Et on a Mbappé Colomwani qui nous dit « Barcola a été catastrophique, mais il met le but important. »
Il n'a pas tort.
Catastrophique.
Franchement, quand on regarde la première mi-temps, elle est cata. Quand on regarde la deuxième mi-temps, catastrophique, c'est dur.
Mais il n'a pas de ballon.
Sur la globalité, c'est dur, mais c'est vrai qu'il n'a pas été bon.
Goba, comment tu vois ça, toi?
Comment je vois ça? Il a été au niveau de tout le monde sur cette première mi-temps, c'est-à-dire quasiment transparent. Le seul offensif qu'on voit sur la première mi-temps, c'est Dembélé. Il a eu très, 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 très peu de ballons. Même quand on peut lui donner, on ne lui donne pas, que ce soit Beraldo ou que ce soit devant. Ou les milieux de terrain, on l'a jamais servi Barcola. Pourtant, il était disponible. Mais même Dembélé, à plusieurs reprises, on l'a vu un peu plus. Mais à plusieurs reprises, il est disponible et on lui donne pas. Donc, à un moment donné, pour moi, c'est pas la faute de Barcola. Donc, oui, on l'a moins vu dans cette première mi-temps que la deuxième. Mais c'est pas de sa faute. En plus de ça, il a énormément défendu. Clairement, il a quand on voit les statistiques, c'est un des joueurs du PSG qui a le plus défendu. Il aide mine de rien à ce que ça passe pas sur le côté. Pour moi, il a pas fait un match catastrophique. Et sur la deuxième, il fait des différences. Il est un peu plus servi. Il fait des différences et en plus, il marque ce magnifique but. Oui. Excuse-moi, mais le but, on peut dire même il a fait un mauvais match. Mais quand tu mets un but tout seul comme ça, ça vient de toi. Tu vas jusqu'au bout. Excuse-moi, il te met un but ce soir. Peut-être qu'il te qualifie. Donc, non.
Tu sais quoi, c'est la première fois où je vois des stats où le Paris Saint-Germain monte en puissance et est meilleur en première mi-temps qu'en seconde. En seconde mi-temps qu'en première. Ouais. En première mi-temps, on a 59% de possession.
Ah, quand même, 59.
On est à 66% en seconde. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est on a 10 tirs en seconde et à 5 tirs cadrés en seconde mi-temps, alors qu'en première, on a 4 tirs pour un tir cadré. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est plutôt dans les expected goals. Là où justement, des fois, on se retrouve avec des expected goals à 2 alors qu'on a mis un but. Et bien là, on se retrouve avec en première mi-temps à 0,31, on met 0 but. Et en seconde période, on se retrouve avec 1,04 et on en met 2. Donc ça prouve qu'il y a une montée en puissance de ce Paris Saint-Germain-là. Il y a aussi un Paris Saint-Germain qui est plus tranchant devant le but. Maintenant, c'est vrai que...
À l'image de Barcola, du
voilà.
coup, parce que ce but, mais, il
fait ailleurs. Hein. Voilà. Un tir sur Dieu était cadré, pour moi, c'est... Pour moi,
ton avis sur Barcola, parce que... On voit les commentaires en disant catastrophique, c'est quand même dur.
Ah non, non, mais je pense qu'il est complètement à côté de la plaque, je suis désolé, hein, mais non, catastrophique, tu peux pas dire ça, je te rejoins, Recoba. Déjà, il marque le but, un but capital. Mm-hmm. En plus, il faut voir comment il le met. C'est quand même magnifique.
Quand on regarde les stats, c'est vrai que. Après, les stats, pour moi, ça
On l'a moins vu que d'habitude. Bah, oui. On l'a moins vu que d'habitude c'est et vrai, on l'a moins vu briller que d'habitude.
C'était une configuration.
Est-ce qu'il faut pas rappeler aussi son statut? Et son, non seulement son âge, et en plus son âge dans le club.
Mais après,
il est jeune, et en plus, il est jeune dans le club. Donc, il n'a pas ces expériences-là des matchs couperets.
Son premier but en Ligue des Champions.
Au-delà même de.
En tout cas, ce qui est vrai, c'est que.
Son statut, c'était quand même assez différent pour lui. Parce que là, pour le coup, un Ousmane Dembélé, par exemple, il est bien accompagné et dédoublé par un Achraf Hakimi. Bradley Barcola, souvent, il est seul et ce n'est pas un Beraldo qui va l'aider. Vitinha, ça va être totalement différent. Et en plus, on en avait parlé durant l'avant-match. Pour un Bradley Barcola, déjà, il n'était même pas énormément servi en première mi-temps. Mmh. En seconde mi-temps, dès qu'on a commencé un petit peu à lui donner des ballons et à le servir, on a vu qu'il y avait quand même des différences qui étaient faites par le jeune français. Exactement, il y avait des choses qui étaient faites. Et pour le coup, on l'a vu très bien en seconde mi-temps. Dès qu'il a touché le ballon et dès qu'il a tenté des choses, notamment offensivement, il a marqué et il a doublé la mise sur cette seconde mi-temps. Donc pour le coup, dire qu'il a été catastrophique alors que c'est un jeune joueur dont Luis Enrique lui fait énormément confiance ces derniers temps, c'est pas cher payé, c'est injuste.
Il y a Riolo qui est en train Twitter, il se fait démolir.
Ah bah tu m'étonnes.
Ah bah oui. Il avait tellement critiqué.
Demande à Marie Traoré s'il a été catastrophique, Barcola.
Mais là où je suis d'accord avec ce que vient de dire Soura, c'est que il est très esselé. En général, Lucas Hernandez ne monte pas, Beraldo ne monte pas.
Alors, quand il y a Lucas Hernandez, c'est mieux.
Oui, à gauche. En fait, le truc c'est que même à gauche, tu regardes bien, Lucas Hernandez ne monte pas beaucoup.
Ah non, il monte de temps en temps. Là où
il monte de temps en temps. Mais là où justement Barcola est très fort, c'est que lui, c'est faire des différences. Seul.
Ouais.
Je vois pas. C'est là où il est très fort. Et au final, moi, je suis d'accord avec ce que dit Soura. Je pense pas que le match catastrophique soit réel. Première mi-temps catastrophique, on est tous d'accord là-dessus. Deuxième mi-temps, pour moi, il est pas aussi dégueulasse qu'on le dit. Mais quand on regarde les stats, un tir cadré, un but. Sachant qu'en plus, moi, je déteste les stats. Mais au final, là où je suis d'accord, c'est que c'est vrai qu'en termes de duels tentés et de duels remportés, on est à 15 duels tentés et 7 remportés. Mais surtout, on est à 4 dribbles tentés et un réussi. Donc, ça prouve qu'il y a quand même, voilà, y a quand même un match qui est un peu moins bon que ce qu'il fait à l'accoutumée. Mais au final, il met un but. Pour moi, il n'est pas si catastrophique que ça. Et puis même, on l'a vu sur les dernières minutes avant qu'il sorte, il apporte quand même pas mal de ballons dans la surface de réparation qui ne sont pas convertis. Donc pour moi, non. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs Parisiens sur le terrain.
Et puis après, il est logique que... fasse moins bien que d'habitude puisque le niveau est beaucoup plus important.
Il est esselé.
Mais il marque son premier but en Ligue des Champions.
Dembélé qui fait des différences sur son côté, c'est bien plus facile de faire des différences quand t'as un Hakimi qui vient dédoubler ou qui rentre, ou t'as un Warren aussi qui vient aider. Quand il y a trois mecs sur ton côté ou deux mecs sur ton côté, tu peux faire beaucoup plus de différences, tu gênes beaucoup plus une défense. Barcola est tout seul, donc à un moment donné, il faut attendre le salut et le salut il est venu en plus.
Mais tu sais, en première mi-temps par exemple, on dit qu'il est moins bon, mais il a pas de ballon. Donc vous attendez à quoi? Il reçoit pas de ballon. Après, en même temps, les joueurs de foot ne sont pas des surhommes. C'est comme Kylian. Hein. Kylian, je lui tire dessus par rapport à sa première mi-temps. Mais quand on voit ce qu'il reçoit en première mi-temps, c'est pas non plus du top. Tu vois? Mais en seconde période, voilà, il y a l'équipe qui est mieux. Ils reçoivent plus de ballons.
La reçu des sacoches quand même, qui a Mbappé dans la profondeur, même dans la course aussi, c'était pas forcément bon. Mais pour le coup, Bradley Barcola, il a fait son match. Ousmane Dembélé a quand même pas mal d'erreurs techniques pour le coup sur son côté droit, même des erreurs de choix aussi. Pareil, pour moi, ce qu'on pourrait retenir aussi sur ce match-là, offensivement, c'est la lucidité. Là, il y a un gros manque de lucidité chez cette équipe-là. Et c'est un truc qu'il va falloir travailler pour Luis Enrique. Maintenant, en ce qui concerne pour Bradley Barcola ou même pour le côté gauche dans son ensemble, que ce soit cette saison ou la saison prochaine, ce qu'on n'a pas fait au mercato hivernal, il faudra recruter un latéral gauche. Parce que Nuno Mendes, quand bien même il est talentueux et il va revenir, déjà on ne sait pas dans quel niveau et en quel état de forme il va revenir, et cet été, il faudra recruter quelqu'un au côté gauche de métier, simplement.
Ok. Il a marqué, il a ouvert le score tout à l'heure, c'est le numéro 7 de cette équipe, le leader d'attaque. Monsieur Kylian Mbappé, Jean-Marc, je me tourne vers toi parce que...
La légende.
Son chouchou.
Voilà, il l'a dit. Pas moi, mais il l'a dit. Et j'aimerais avoir ta lecture de son match parce que, malgré son but, est-ce que c'est un bon match ? Parce que marquer ne garantit pas forcément de faire un bon match.
Moi, je trouve qu'il fait... Globalement, je trouve qu'il fait son match. Je ne dirais pas qu'il fait un bon match, je dis qu'il fait son match, c'est-à-dire qu'il joue son rôle. Déjà, il marque, c'est ce qu'on lui demande.
Oui.
J'ai ses stats, là, il est à combien ?
Il a mis son 70e but en 68 matchs de Ligue des Champions.
Voilà, mais cette saison...
70 en 68 matchs.
Ouais. 70 matchs, 70 buts, Kylian Mbappé en Ligue des Champions ? Non.
Oula.
Ça, c'est pas la vérité.
Soura, tu commences à faire des informations, là.
Non, il est à 37 buts. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est à 37 buts cette saison, 13 passes décisives.
Il a pas 70 buts.
Impliqué dans 70 buts.
Là, c'est la... S'il te plaît, quand même.
Non, attendez.
Là, il se rapproche de Messi et Mbappé, là.
Doucement. Jean-Marc, oui.
Donc, je trouve que vous êtes... En général, assez injuste avec lui, c'est-à-dire que le mec, il est là, 4 matchs à domicile en Ligue des Champions cette saison, 4 buts. Il fait peur à la défense, ça se voit. Je pense que Barcola, s'il marque son but, c'est aussi parce qu'il emmène avec lui des défenseurs. Donc, ouais, il réussit pas tout. Oui, il est un peu plus... il est un peu plus... Je dirais pas perso, mais il joue un peu plus la carte individuelle sur ce match-là parce qu'il sent qu'il faut débloquer le match. Et s'il n'avait pas marqué, vous l'auriez pourri. Et s'il avait marqué un deuxième but en étant plus individualiste, vous auriez dit quand même qu'il était encore individualiste. Donc je trouve que le mec met la barre tellement haut que vous
haute.
Ouais, mais c'est trop injuste, comme Calimero. C'est injuste parce que du coup, prends du recul.
Tous joueurs,
le mec marque 5 fois plus de buts que chaque autre. Attaquants de cette équipe.
Mais ces autres attaquants ne sont pas, les autres attaquants ne sont pas Kylian Mbappé.
Mais ils sont internationaux, tu plaisantes ou quoi ?
C'est pas parce que. Mais il y a des internationaux argentins aussi, et ils n'ont pas le niveau de Lionel Messi, ils n'ont pas le statut de Lionel Messi.
Pas de ça, je te parle. T'as un champion du monde, Dembélé.
C'est pas le même statut.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, statut ?
C'est pas le même statut et c'est pas le même niveau.
Mais c'est pas une question de statut.
C'est pas le même niveau.
D'ailleurs, il va l'avoir, sa statut.
Mais c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Les standards qu'a laissé un Kylian Mbappé sont assez similaires à ce qu'avait laissé un Cristiano Ronaldo et un Lionel Messi. Toutes proportions gardées, bien entendu. Mais aujourd'hui...
Je suis sûr que si t'avais vu jouer Cristiano Ronaldo, t'aurais été beaucoup moins...
Les amis, vous savez quoi ?
Cristiano Ronaldo, il a ramené 4 Ligues des Champions.
Soit, vous savez quoi ?
Madrid.
Non, vous savez quoi, les amis ? Vous n'êtes pas d'accord ?
Non, enfin, non. C'est bien méchant. Hein.
Si vous n'êtes pas d'accord, on va faire un petit duel, comme ça, on va alimenter aussi nos réseaux sociaux.
Ouais.
Soit, Kata, ton avis sur Kylian Mbappé, et puis après, Jean-Marc va le dire. Et puis après, nos deux autres amis, Barry et Recoba, vont parler, vont faire les juges.
C'est un timer, quand même. Parce que...
Ouais, attends. Non, c'est vrai. Allez.
Une minute chacun, ça dégage. Une
petite trentaine de secondes, vas-y, on t'écoute. Allez,
Kylian Mbappé marque un but ce soir aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais dans le contenu du jeu et de ce qu'il a proposé aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas assez. Et il doit faire beaucoup plus, notamment le standing d'un Kylian Mbappé aujourd'hui. On doit s'attendre à ce qu'il soit déjà un peu plus altruiste envers ses coéquipiers. Mmh. On a vu de nombreuses actions où il n'a pas donné dans le bon tempo, que ce soit à Bradley Barcola ou à Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, dans cette position de faux numéro 9, doit aussi peut-être essayer de faire un petit peu évoluer son jeu. Parce qu'aujourd'hui, il va être un petit peu muselé par deux défenseurs centraux et non se retrouver dans des situations de 1 contre 1. Je n'ai pas forcément vu énormément de permutations entre les ailiers et Kylian Mbappé. Un petit manque aussi de connexion. Maintenant, on doit juger Kylian Mbappé à la hauteur du niveau qu'il a et des exigences qu'on a aujourd'hui. C'est lui qui veut être à la table de Messi, de Ronaldo et Pelé.
Merci. On va le juger comme ça. On t'a entendu, Jean-Marc, un petit mot, et puis après on va donner la parole à Recoba sur ça.
Moi, je trouve qu'il fait son match d'abord parce qu'il marque un but. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il fixe un peu, il fait peur à tout le monde, donc il fixe les défenseurs. Ça libère des espaces pour les autres.
Mmh.
Et quand on regarde ses stats de la saison, je suis désolé les gars, c'est un truc de dingue. Et puis une question, il a marqué Haaland ? Il a marqué Kane ?
Alors là.
Il a marqué Kane ? Il a marqué Haaland ?
Non.
Bon, mais... avec qui il est en compète en ce moment ? Tu me parles de Messi et tout ça, ils sont trois fois grand-père, c'est fini.
Ok.
Donc là, c'est lui.
Mais qui a la Ligue des Champions entre Haaland et Mbappé ?
Comment ?
Qui a la Ligue des Champions entre Haaland et Mbappé ?
Qui a la Ligue des Champions, quoi ? Mais c'est pas un match, c'est pas un sport.
Tu voulais
individuel.
Me faire un match, tu m'as dit qui
non,
a marqué.
Mais, s'il était... mais c'est ça qui est fascinant.
Tu m'as dit qui a marqué
comment,
entre les trois.
Comment il s'appelle ce podcast ?
Paris Central.
Paris Central.
Ah bah pourquoi t'as parlé d'Mbappé ?
Mais non, mais ça
tu
veut
m'as
dire
parlé d'Alain Descaines en premier.
Tu voudrais qu'il ait quitté. C'est ça qui est fascinant. Hein ? C'est-à-dire, vous lui chiez dessus parce qu'il est encore là et qu'il est chaque année, vous pensez qu'il va partir. Mais en même temps, tu lui reproches en sous-entendu. Que s'il avait été au Real, il en aurait déjà peut-être deux ou trois.
Ah, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Si. J'ai jamais dit qu'aussi il serait au Real, il aurait deux ou trois.
Mais évidemment.
Messieurs, que non. Merci.
Mais évidemment, c'est
bah
ça
non.
que je veux dire.
Voilà, Nick, fais-toi plaisir. Ricoba va trancher et Barry aussi va porter son expertise parce que, mine de rien, bon, je ne peut-être mon avis, alors je suis présentateur, je ne devrais pas. Haaland et Kane n'ont pas l'importance à Manchester City et au Bayern que Kylian Mbappé a au Paris Saint-Germain.
Il n'a pas tort.
Non, mais c'est la vérité, encore une fois, elle se trouve au milieu. Et pour moi, il faut rester un peu plus mesuré. Et je ne vais pas aller soit d'un côté, soit de l'autre. Je reste au milieu parce que c'est une réalité. Mais aujourd'hui, pour moi, tu ne peux pas reprocher à Mbappé de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions, par exemple, alors que son effectif qu'il a eu c'est sur ces dernières années, c'est très compliqué. Il y a toujours des manques, que ce soit les latéraux, que ce soit le milieu de terrain. Tu n'es pas armé comme sont armés le Real Madrid ou Manchester City. Donc, je trouve que c'est difficile de reprocher ça à Mbappé. Il ne joue pas tout seul, c'est 11 joueurs. Maintenant, sur le match de ce soir, moi, je suis très content au niveau des statistiques. Il marque son but, il a failli en mettre deux. Évidemment qu'il fait beaucoup de mal à la défense. Hein. Robin Lenormand, il prend un jaune, il a eu du mal aussi face à lui. Donc, forcément qu'il est important. Maintenant, on reste toujours sur notre faim avec Mbappé, c'est normal.
C'est pas le problème,
c'est
pas lui.
On attend beaucoup de Kylian Mbappé, on sait qu'il peut faire beaucoup plus, qu'il peut faire beaucoup mieux. Donc, on va attendre qu'il fasse aussi un peu plus de pressing, comme peut le faire un Gonçalo Ramos. On va attendre qu'il soit
il
peut-être aussi
soir,
un peu plus collectif. Non, mais voilà. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il joue dans un poste de numéro 9. Donc, il se doit aussi faire jouer les autres, servir de point d'appui, jouer avec Barcola, avec Dembélé. Et par moment, il choisit trop la solution individuelle. Donc, on peut lui reprocher. Et il y a quelque chose qui est net aussi, c'est que souvent, il y a un manque de course. On l'a vu face à Brest où il faisait énormément de courses. On s'est dit waouh, enfin on a retrouvé le Mbappé qu'on connaît, des vraies qualités physiques, etc. Parce qu'on pensait qu'il avait un petit pépin physique au début, depuis le début de saison, qu'il n'était pas à 100%. Et ce soir, il y a un manque quand même encore, un manque de courses, il y a un manque d'engagement par moment.
Excuse-moi de te couper. Rappelle-toi le tacle de ouf qu'il prend il y a une semaine.
Ah oui.
Il prend un tacle de ouf, c'est-à-dire que.
Oui, mais après s'il est diminué, il joue pas.
Non, si d'accord, mais je pense qu'il n'était pas à 150% ouais. aujourd'hui. Et ce tac de ouf, là encore, c'est une qualité que vous ne voyez pas parce que vous êtes exigeant, Zarma. C'est que ce tacle-là, Neymar, il le prend, tu ne le vois pas jusqu'à la fin
Neymar
de la saison.
Neymar n'est plus dans l'effectif, on va passer à autre chose.
Non, mais d'accord, mais je compare ce qui est comparable, je compare des théoriques là.
Il y a René.
N'importe quel joueur se prendrait, avec ce tacle-là, il est out 3 mois.
Très important. Il y a René Bongoy qui nous dit ne jamais trahir le Congo. Yes. Voilà. Barry est là, donc il ne faut pas trahir le Congo. Barry, ton avis sur
le Congo.
Le match, hein, on ne parle pas de la carrière, on ne parle pas de la situation contractuelle, on parle vraiment du match de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il aurait dû faire plus ? Est-ce qu'il aurait pu faire plus ? Quel est ton avis sur ça ?
J'arrive pas à comprendre pourquoi le Congo a perdu 1-0 contre la Côte d'Ivoire. C'est le gars. Il est encore sur la canne. Non, blague à part. En fait, moi, je suis d'accord avec Ricoba. La vérité se trouve entre vous deux. Et c'est pas pour faire la politique de l'autruche. Hein. Pas du tout. Autant, je suis d'accord avec les arguments de Soura. C'est tout à fait normal qu'on ne soit pas exigeant de la même façon avec un Kylian, qu'on l'ait avec un Vitinha, qu'on l'ait avec un Dembélé. Kylian est un grand joueur. Dembélé est un bon joueur. C'est pas moi qui l'explique, hein. C'est notre beau Veyami Eto'o qui va te l'expliquer. Kylian est un grand joueur. Donc forcément, les grands joueurs, tu as des attentes envers eux qui sont plus élevées. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que des fois, on est peut-être un peu trop dur et beaucoup trop exigeant avec ce joueur. Pas sur ce match-là. Parce que sur ce match-là, quand on regarde bien, il met un but. Mais en première mi-temps, il est lamentable. Pourtant, il reçoit des ballons, il n'est pas bon. En seconde mi-temps, il est meilleur. Je le trouve plus intéressant et il fait plus jouer les autres. Et c'est vrai que là où ce qu'a souligné Ricoba, cette volonté de toujours l'emmener tout seul, ça a tendance aussi des fois
à... 13 passes D hein, cette saison.
Oui, oui. Mais c'est,
ouais, juste non, ça. Non, mais... Allende, je demande à voir.
Non, mais oui.
Allende aussi est un des meilleurs passeurs de.
Ah ouais,
non, mais, non, mais, 13 non, mais, non, mais
ce que vous avez fait un débat.
Attention.
Ne parasitez pas l'émission. J'essaie de bien tenir ça.
Je parle de ce match-là. Je ne dis pas que Kylian Mbappé est un individualiste, comme beaucoup le disent. Je dis sur ce match-là, il y a eu beaucoup d'occasions.
Oui, non, mais Mbappé, là, sur ce match-là, c'est
il y a eu beaucoup d'occasions où Kylian Mbappé pouvait lancer, notamment un joueur qui lançait un appel dans la profondeur et notamment dans la surface de réparation, et il ne le faisait pas. Et j'ai même dit tout à l'heure, pendant la mi-temps, j'ai dit, Kylian, c'est très facile de se rendre compte à quel moment il va être individualiste. En général, quand il est excentré en dehors de la surface de réparation et que tu te rends compte qu'il a un marquage individuel sur lui et qu'il n'arrive plus à rentrer dans la surface de réparation lorsqu'il est en position numéro 9, bah, il va tenter des frappes en dehors de la surface de réparation. Des frappes, des fois, qui n'ont aucun sens.
Enfin, et c'est il là touche où, la barre, hein, quand même.
Voilà, c'est là où tu dis que, c'est là où tu dis que, bon, je pense qu'il est un peu frustré. Maintenant, un, il marque un but. Deux, je pense que je suis d'accord avec toi, le but de Barcola, il est quand même acteur, pas forcément majeur, mineur, mais en tout cas, c'est un acteur de ce but-là, parce qu'il attire les défenseurs, et donc son marque, le joueur que marque
sur lui, qu'il y a dans la surface.
Voilà, le joueur que marque sur lui n'est pas dans la surface de réparation. Il est dangereux, qu'il soit là ou pas là. Bah, tu sais qu'à tout moment, le gars il va dégoupiller, qu'il soit à 45 minutes du but ou à 45 mètres du but ou à 10 mètres. Tu sais que les défenses vont défendre différemment avec lui. Mais voilà, il faut aussi comprendre que forcément, Kylian a mis la barre tellement haute que lorsque la barre est un peu plus basse au standard de ce qui se fait dans les 5 grands championnats, on se dit non, 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 nous on veut les standards des très grands, et ce qui est normal.
Il y a Olive Paris 76 qui nous dit c'est exactement ça, Barry. Mbappé est du top niveau mondial, on attend forcément plus de lui. Alors, les amis, on a débriefé quand même pas mal, mais on veut vos tops et flops. Alors, vous me sortez 3 joueurs dans vos tops, 3 joueurs dans vos flops, toute équipe confondue.
Okay.
On commence avec Soura, ne t'endors pas, mon ami.
Top, Danilo Pereira.
Oui.
Un autre top. Je mettrais Marquinhos et Donnarumma aussi, parce qu'ils ont quand même été solides. Ce petit triangle qui compose un peu la charnière et le bloc défensif de notre équipe a quand même tenu la route ce soir. Et il faut quand même les récompenser, notamment les sorties aériennes de Donnarumma étaient plutôt réussies, même si elles étaient plutôt acrobatiques dans l'ensemble. Ça, il était plutôt rassurant dans ce match-là, et c'est un match important pour lui, parce que c'est là où on va un peu surveiller ses prestations. En flop, je vais mettre... Déjà, André Silva, parce qu'il n'a pas été bon en tant que numéro 9. Il n'a pas créé de véritable danger. Et pourtant, il a eu quand même quelques situations où il pouvait ouvrir la marque face au Paris Saint-Germain. Et sinon, je mettrais Fabian Ruiz tiens.
Je rappelle qu'un certain supporter qui s'appelle Moja, que je connais depuis l'enfance, voulait d'André Silva au Paris Saint-Germain.
C'est pas grave. Barry, top et flop, s'il te plaît.
Je vais pas forcément... déployé de ouf, mais en vrai, pour moi, dans les tops, je mettrais Danilo, je mettrais Dembélé, et je suis d'accord avec lui, je mettrais Donnarumma, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire, mais quand il a eu... Non, je vais mettre Donnarumma, parce qu'en fait, il n'a pas eu grand-chose à faire. Je mettrais Marquinhos, parce que je pense que la charnière a été efficiente. Tu vois, je pense que toutes les occasions de la Real Sociedad n'ont pas été du fait de la charnière. Donc, je mettrais la charnière et Dembélé en top. Dembélé, pour sa première mi-temps, où il était intéressant, sa seconde mi-temps, il était un peu moins en vue, mais toujours aussi intéressant. Et en flop, moi je vais m'occuper que du Paris Saint-Germain. André Silva, il est mauvais, ça on savait déjà. Mais au Paris Saint-Germain, je mettrais la ligne du milieu de terrain. Je mettrais Fabien Ruiz, Vitinha, parce qu'en première mi-temps, là, il était mauvais. En seconde période, il était bon au numéro 6. Et Warren, qui je pense pendant 90 minutes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais voilà. Je sais qu'on dirait qu'il a 17 ans. À partir du moment où tu es titulaire au Paris Saint-Germain, je m'en fous de ton âge. Il faut le dire français, il n'a pas été bon aujourd'hui.
Voilà. Après l'eau.
Il a pris l'eau. Et ce qui me dérange, c'est que tu prennes l'eau en première période contre Dortmund te met la pression. Que tu prennes l'eau face à cette équipe de la Real Sociedad, ça me pose un problème parce qu'ils n'étaient pas énormes aujourd'hui.
Jean-Marc et Ricoba pour terminer ce live.
Moi, je vais faire comme Barry, je vais parler que des joueurs du PSG parce que les autres, je m'en fous. Même si le petit japonais était intéressant. Alors, les tops, ouais, la charnière, je suis d'accord. À égalité en plus, je trouve Marquinhos, ça fait un gros match. Notamment des belles relances. Et puis, rien que pour vous emmerder, je vais mettre évidemment Mbappé comme troisième top.
Nous, c'est ton choix.
Hein. Ah, mais il a les buts, donc tu peux le mettre.
Ouais, et dans les flops, il y en a un dont on n'a pas parlé, que je ne m'étais peut-être pas dans.
Oh, t'inquiète, je vais aller le mettre.
C'est l'homme du match, d'ailleurs, en plus, Kylian. Hein,
ouais. Ouais, voilà. Il y a des gens qui sont exigeants et qui le désignent homme du match. Hakimi, je trouve qu'il n'a pas été bon du tout. Je pense qu'il a laissé sa tête sur son pénalty en Côte d'Ivoire. Bon, alors ça viendra peut-être, mais là, aujourd'hui, je trouve qu'il a été particulièrement pas bon.
Ah bah.
Ruiz, assez d'accord, Ruiz. C'est le dernier. Beraldo, je trouve qu'il est, il est pas au niveau pour l'instant. Il peut venir, mais pour l'instant, je le trouve pas au niveau.
Et Copa ?
Bah, y en a un, pour moi, un par ligne qui ont surnagé. Premièrement, Danilo, qui a été au-dessus. Même si Marquinhos a été très bon, moi, je remets Danilo. Dembélé, pour moi, offensivement, c'est lui qui a tout changé. Il est sur les deux buts. C'est lui qui donne la passe D, si je ne me trompe pas, et c'est lui qui fait la transition. C'est lui qui a fait le plus de centres sur Marquinhos
sur le premier but. Ouais.
Exactement, et c'est lui qui amène le deuxième but. Il aurait pu en amener aussi d'autres si d'autres ont été, peut-être même lui aussi.
Il a subi des fautes en plus. Hein.
Il a subi énormément de fautes, ça a permis à l'arbitre de distribuer pas mal de jaunes. Bref, il était très très remuant et très bon sur son côté. Le dernier que je mets, c'est Vitinha, qui pour moi change le match, clairement. Dans la première mi-temps, on ne le voit pas beaucoup, mais dans la deuxième, son repositionnement, pour moi, il change tout. Donc, à partir du moment où ton changement fait que tu es devenu un impact player, pour moi, tu es dans les tops. Et trois flops, Ruiz, parce que clairement, il nous met dedans, je trouve, en première. Et il n'a pas été bon, à part les 20 dernières minutes. Hakimi, comme l'a dit Jean-Marc, totalement d'accord. Pour moi, il est passé à côté de son match complètement. Offensivement, il n'a quasiment rien apporté. Des contrôles ratés, des passes ratées, des courses où tu ne comprends pas. Tu vois qu'il n'est pas du tout dedans. Et dernier flop, j'ai mis Ruiz, j'ai mis Beraldo, malheureusement pour lui, mais c'est très très difficile de le mettre flop parce qu'il joue à gauche face à Kubo, donc voilà.
C'est Balou, il y a un latéral qui est sur le banc.
Je remercie donc mon quatuor pour cette émission, ce débrief exceptionnel. Voilà, merci Barry, merci Soura, merci Jean-Marc, merci Rekoba. Merci à vous dans le chat, merci d'avoir donné énormément de force. Ici, c'est Paris. Et n'oubliez pas, on se retrouve déjà samedi pour notre live. Et surtout, à la prochaine.
Ciao.